Crush Networks. Terror States.
Divergence numérique, nous ne sommes pas des terroristes. C'est la 58e émission. Et oui, depuis ce temps-là, une nouvelle année qui débute. Meilleurs vœux à tous. Un nouveau logiciel qui lance les morceaux. Monsieur Rivendell aux manettes. En test en plus. Et je suis pas tout seul, puisque Anaël, si tu nous entends, nous sommes là, on t'attend, on a du cidre, on a une petite galette pour se tenir chaud. Et je suis accompagné de Cédric Chapuis, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Pascal Arnoux de Montpellier Libre, qui nous parleront tous les deux de l'Ubuntu Party de ce 9 janvier 2010 qui se passera à la médiathèque Émile Zola. Au sommaire, on aura évidemment les nouvelles du front, un front froid en ces temps-ci, puisque évidemment c'est l'Adopi qui prédomine, du logiciel libre ou de la lutte contre le logiciel libre aussi, et des nouvelles sorties logicielles évidemment. Un petit coucou à Gilou, remets-toi bien au coin du feu, et on commence évidemment avec les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Avec un enchaînement, Rivendell. Et oui, la menace d'Adopi se généralise dans les contrats des fournisseurs d'accès. Les fournisseurs d'accès français mettent à jour leurs conditions générales relatives aux abonnements ADSL pour tenir compte de la loi Adopi 1 et 2. Dernière en date, Free, dans un document. On peut ainsi découvrir les nouvelles conditions spécifiques du service d'accès au service de communication électronique du forfait Freebox publié au 1er janvier. Il s'en passe des choses au 1er janvier. Des conditions qui marquent un retour aux fondamentaux du fournisseur d'accès à Internet, puisqu'elles sont bien distinctes de l'accès à Internet. Un article Le 4 du document, qui est intitulé « Usage non abusif et respectueux de la législation en vigueur », il explique les règles de la riposte graduée et les obligations des abonnés, qu'ils soient Madame Michu ou non. Alors Madame Michu, c'est la dame qu'on prend, la ménagère de 50 ans qui fait de la DSL, qui a un petit jeune qui s'appelle Kevin, qui lui télécharge à gogo, voilà. C'est un peu ça. C'est pas la geek, mais elle a peut-être de la barbe aussi. En tout cas, en application de la loi Adopi, compte tenu des dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins, l'attention de l'abonné titulaire de l'accès est attirée sur l'obligation de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de téléchargement sans l'autorisation des titulaires des droits prévus au livre 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est précisé au surplus que tout manquement à cette obligation par abonné ou des tiers à qui l'abonné aurait mis à disposition son accès serait susceptible d'engager la responsabilité de l'abonné. La notion de mise à disposition est, on le sait, très vaste, puisqu'elle englobe aussi l'usage de la ligne par une tierce personne non autorisée, un malware, un accès Wi-Fi, etc. Et dans tous les cas, Free ne peut être contrainte par l'autorité de suspendre l'accès à des services de communication au public en ligne pour les abonnés qui feraient l'objet de procédures devant l'autorité susvisée. Que le piratage soit le fait d'un des membres du foyer de l'abonné ou d'un pirate informatique. Un mouchard, évidemment, on en parle aussi, puisque le FAI informe aussi qu'il met à disposition de l'abonné des moyens de sécurisation lui permettant de contrôler l'utilisation par des tiers de l'accès mis à disposition. Free n'anticipe pas l'histoire et ne fait pas de zèle, mais peut-être de l'humour. Faute de décret d'application, aucun FAI n'est en mesure aujourd'hui de vous proposer des moyens de sécurisation labellisés par l'Adopi. Il n'en existe pas pour l'instant. Et pour cause, celle-ci n'a pas encore commencé son chantier. Il faut surtout deviner dans ces moyens de sécurisation une formule générique qui évoque la protection de votre de votre réseau sans fil qui verrouille la Freebox ou une autre box aussi, hein, puisque si vous lisez aussi d'autres conditions générales de vente, vous verrez que votre fournisseur d'accès a rajouté des petites clauses bien sympathiques. Pour la petite histoire, du côté de la concurrence, donc les conditions générales de vente de neuf mentionnent Adopi depuis le 17 août 2009 chez Orange. On retrouve la marque de l'Adopi dans cette version du 6 novembre 2009, mais ces clauses y sont nettement moins complètes. Donc évidemment, des faillis qui sont contraints de mettre à jour leurs conditions générales de vente. Vous pouvez retrouver tout cela, évidemment, sur l'excellent site pcimpact.com, un article dont j'ai pris la source et la plume de Marc Ries, qu'on aura sans doute au téléphone la semaine prochaine en plus. Un petit mot, chers invités, là-dessus, sur la Adopi, sur comment ça se goupille, ça commence à arriver chez nous.
Le problème, c'est que les FAI, pour bloquer uniquement l'accès Internet et pas le téléphone ou la télévision, ça risque d'être contraignant et pas faisable. Donc, il faut voir comment ce sera appliqué par eux avant de pouvoir se sentir menacé de coupure.
C'est vrai que là, tu fais allusion évidemment à toutes les offres triple play, c'est-à-dire téléphonie, télévision. Ouais. Et donc, couper que l'accès Internet sans les autres offres, déjà, ça leur pose des problèmes techniques.
Tout à fait. Et depuis le départ, Free dit que ça risque d'être infaisable. Donc, à voir.
Surtout qu'en plus, dans la loi, il est dit ou mentionné qu'on laisse quand même un accès à l'email à travers un accès Internet, mais très restreint. Donc, c'est encore le laisser, mais...
Comment laisser le mail sans laisser l'accès Internet?
D'ailleurs, l'email est obligatoire puisque les avertissements vont arriver sur les emails.
Ah ben,
et
oui.
Est-ce que les gens consultent l'email du fournisseur? Ça, c'est pas évident. Mais normalement, ils sont obligés de le faire. Non, moi, je crois que cette loi Adopi, c'est la même que la redevance TV. C'est la même stratégie, en fait. C'est, les évadés fiscaux aussi, c'est la même stratégie. On commence à parler et finalement, il n'y a rien derrière pour contrôler tout ça. Et de même, les gens vont arrêter de soit télécharger, ils vont se censurer eux-mêmes. Et donc, comme la redevance TV, à un moment donné, on menaçait les gens avec la redevance TV. Il s'est avéré que finalement, les gens ont déclaré après d'eux-mêmes. Et après, il y avait toujours des petits malins pour ne pas le faire. Et là, avec la loi Adopi, ce sera la même chose.
C'est peut-être le but de cette loi, c'est-à-dire aussi, de faire peur, faire peur pour que ça soit pédagogique, comme dirait notre ex-ministre de la Culture. Justement, qui sont les membres désignés de ce collège? Puisque la liste des membres du collège et de la commission de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, donc la fameuse Adopi, a été publiée le samedi 26 décembre 2010 au journal officiel. On connaît aussi l'équipe experte qui sera chargée de lutter contre les pirates, composée notamment de Franck Rister, qui était le rapporteur de cette loi, Michel Thiolière, Jacques Toubon, qui fait partie de la commission Zelnik, qui a rendu son rapport récemment, ou de Jean Berdino. Quelques détails, un cadeau de Noël fait à l'industrie culturelle pour les fêtes de Noël, le décret de nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de l'Adopi a été publié donc au journal officiel le 26 décembre, et c'est la première étape qui permet à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet de ne pas être ou de ne plus être une coquille vide avant la publication des décrets qui cadreront son fonctionnement, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de décret d'application. On rappelle aussi qu'il s'installe justement demain, vendredi, vendredi donc 8 janvier, le ministre de la Culture qui installera le collège de la DOPI donc à midi. Et l'inauguration se fera dans les salons du ministère de la Culture et non rue de Texel dans leur bureau de fonction. Un bureau de fonction quand même de 1107 mètres carrés dans le 14e. Ne l'oublions pas, est payé par nos chers contribuables. Par le Conseil d'État, donc, est nommé Jean Musitelli, le président de la très haute inutile autorité de régulation des mesures techniques, l'ARMT, qui avait créé la loi DAFSI. L'ARMT devient donc la DOPI, ce qui fait de M. Musitelli un candidat tout désigné à sa présidence. Par la Cour de cassation, Marie-Françoise Marais, membre de l'ARMRT, conseillère à la Cour de cassation chargée des affaires de droit d'auteur. Elle est vice-présidente du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, CSPLA, placée sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc le CSPLA avait dans un rapport rejeté l'idée que le téléchargement sur les réseaux peer-to-peer puisse être un acte de copie privée, plaider pour la responsabilité pénale des éditeurs de logiciels de peer-to-peer et pour un renforcement des DRM. La Cour de cassation, Madame Marais, avait été rapporteure de la décision Mulholland Drive qui avait nié l'existence d'un droit à la copie privée opposable aux producteurs de DVD qui empêchent leur copie. L'arrêt de la plus haute juridiction avait, sous la plume de Madame Marais, estimé que le bénéfice de la copie privée devait être rejeté au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits et de l'importance économique de l'exploitation de l'œuvre. Si Jean Musitelli n'est pas élu président, Madame Marais est celle qui tient le mieux la corde en deuxième position. Alors, il y a plein de d'institutions qui ont nommé donc les membres de la DOPI. Par la Cour des comptes, on a Patrick Bouquet, lui, qui est ancien membre de l'ARMRT, haut fonctionnaire de longue date. Il avait été nommé, selon Renaud Dodieu de Vabre, pour bénéficier de l'ARMRT, de son expertise économique, mais également de sa connaissance du secteur des nouvelles technologies. Par le CPLCA, Christine Mogiou, conseillère d'État, elle avait été nommée en qualité de personnalité qualifiée au CSPLA en novembre 2009 en remplacement d'André Lucas, un professeur de droit de Nantes, grand spécialiste des questions de propriété littéraire et artistique. Il est l'auteur d'un traité de référence sur le sujet. Petite histoire, Monsieur Lucas, qui a démissionné du CSPA, avait exprimé des vues favorables à la licence globale. Christine Mogiou est spécialiste de droit économique. Par les ministres en charge des communications électroniques et de la consommation et de la culture, Jean Berdineau, secrétaire général de l'ARMRT. Beaucoup, beaucoup de membres de la MRT dans ce collège pour la DOPI. Il avait été le co-auteur d'un rapport du CGTI, Conseil Général des Technologies et de l'Information, qui préconisait l'installation de spyware chez les internautes ou encore la création de listes blanches de sites web sur les points d'accès Wi-Fi public. Un super truc, ça. Il devrait logiquement devenir secrétaire général de la DOPI. Alors par les ministres en charge des communications électroniques et de la communication et de la culture, on a Chantal Jeannet, une inconnue à vos yeux, à moins qu'il ne s'agisse que de la même Chantal Jeannet que la présidente de l'Union féminine civique et sociale, UFCS, dont la fiche bibliographique indique qu'elle est la petite-fille d'un ancien président de la République. Par les ministres en charge des communications électroniques et de la consommation et de la culture, Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture. Il a beaucoup œuvré au Parlement européen pour promouvoir la riposte graduée et s'opposer à l'amendement 138. Il en est récompensé, lui qui est aussi membre de la commission Zelnik sur l'amélioration de l'offre légale. Par le président de l'Assemblée nationale, Franck Riester, rapporteur acharné des deux lois DOPI. Il a travaillé durement pour que l'Assemblée vote la création de la DOPI. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, évidemment. Par le président du Sénat, Michel Thiolaire, rapporteur au Sénat des deux lois DOPI et de l'ancienne loi DAFSI qui avait créé la RMRT. Lui aussi est remercié d'avoir fermé les yeux sur de nombreux points qui posaient des problèmes dans la riposte graduée. Et voilà, et donc sont nommés titulaires de la commission des droits de protection des droits chargé de mettre en œuvre la riposte graduée par le traitement des dossiers d'infraction présumée. Mireille Humbert-Carretta, ancienne directrice de cabinet du ministère de la Justice, conseiller d'État spécialiste du droit pénal, Jean-Yves Montfort, président du tribunal de grande instance de Versailles, et Jacques Bille, un conseiller à la Cour des comptes. Ce dernier, qui est professeur en marketing et communication, fut vice-président de l'Association des agences conseil en communication. Et ça tombe bien, sans doute, de pouvoir aller jusqu'à l'étape finale de la condamnation devant un juge. L'ADOPI devra avant tout faire preuve de communication pour espérer faire peur aux internautes et justifier son existence. On voit bien que la MRT devient en grande majeure partie l'ADOPI. C'est ce qu'on peut se dire. Et que certains, évidemment, se retrouvent évidemment parmi ce collège. Une petite remarque.
Je crois que tu as tout dit. Des locaux qui paraissent disproportionnés par rapport à la commission, des gens qui ne seront pas forcément objectifs par rapport au problème. Voilà.
C'est sûr qu'ils viennent, ils ont bien soutenu la DOPI, donc ils vont la défendre jusqu'au bout, évidemment.
Ah ouais. Ben moi, je trouve regrettable que depuis le début, il n'y ait pas et il n'y ait toujours pas de gens de la SACEM ou de gens...
Des représentants d'internautes, par exemple.
Voilà, des représentants des consommateurs.
Qui avaient été évoqués, voilà, de consommateurs aussi.
Là, on a affaire, en allant jusqu'au bout de la pensée, à une Gestapo, mais ou en tout cas à quelque chose qui est prévu pour nous taper dessus. Simplement, enfin, nous, je dis nous, les gens qui téléchargent, évidemment. Mais voilà, je sais pas très 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 clair ce qu'ils sont en train de faire.
Oui, on attend le premier mail. Qui recevra son premier mail? Le grand gagnant, vous le saurez peut-être dans quelques semaines, à condition évidemment que le logiciel de surveillance du réseau soit là. On n'en sait pas trop. Il y a des choses qui se traînent. Je vous conseille d'aller voir sur les sites de numerama.com, évidemment, sous la plume toujours de Guillaume Champeau. C'était l'article de Guillaume Champeau que je vous ai lu. Je cite mes sources et je les reprends intégralement pour pas qu'il y ait de biais cachés, hein, n'est-ce pas? Et suivez ça de près, puisque ça bouge pendant les vacances, vous faites la fête, mais après, ça va être la vôtre. ADOPI, toujours des milliers de constats d'IP pirates chaque jour. Nouvel observateur qui a interviewé Michel Thiolière à propos de la mise en place de l'ADOPI. Le personnage a une double casquette, il fut rapporteur au Sénat du texte. Il a été choisi parmi les personnalités qualifiées pour siéger au sein de l'ADOPI. Il a donc participé très activement à la définition de son propre emploi qu'il conservera pendant 6 ans quand même. Quant à Franck Riester, qui est maire de Coulommiers, précisons-le, lui, c'était à l'Assemblée nationale, évidemment, qu'il a défendu ce texte. À la question « Quand sera envoyé le premier mail d'avertissement ?», le sénateur répond donc à nos confrères que le dispositif devrait être en place d'ici la fin du mois. Les moyens techniques sont déjà prêts. Les ayants droit sont prêts à fournir à la haute autorité des listings d'IP pirates. Ah, ça c'est bien ça. Le sénateur oublie cependant que le décret est actuellement bloqué par ACNIL. Hein, et concernant la manipulation des données personnelles, il faudra qu'ils attendent un petit peu. Un détail qui va repousser de plusieurs mois la mise en route de l'artillerie. L'expression d'IP pirate marque à elle seule aussi la perversité de ce texte de loi. Une IP n'est pas forcément pirate. Hein. Il faut au contraire attendre la décision d'un juge, un vrai indépendant, pour qualifier ou non un acte de contrefaçon ou de défaut de sécurisation, puisque ADOPI sanctionne l'un et l'autre. Utiliser cette expression quand on est rapporteur du texte au Sénat pour ADOPI comme pour DAFSI et qu'on connaît a priori ce dossier sur le bout des ongles est une erreur. Certains diront une faute, ce raccourci marque de son mauvais parfum les fonctions qui attendent cette personnalité qualifiée au sein de l'ADOPI. Toujours selon Michel Thiolière, l'ASACEM a déjà acheté son matériel pour chaque jour dresser des milliers de constats de téléchargements illégaux. Il ne reste plus qu'aux magistrats de caler leurs dates et leur fonctionnement. Mais sur le fameux logiciel de sécurisation, c'est toujours le même brouillard. Les fournisseurs d'accès à Internet devront proposer une mesure afin de sécuriser l'accès à Internet à la manière des antivirus ou des contrôles parentaux. Un logiciel, ce logiciel qui permettra de prouver en cas de litige que son accès a été bien verrouillé. Ensuite, si le client refuse, libre à lui, tout en sachant qu'une sanction existe. Dans l'ensemble, tout va se développer très rapidement dès les débuts de la loi Hadopi. Évidemment, soufflant le chaud et le froid sur le marketing de la peur, Michel Tollier explique encore que pour Hadopi, il n'y a pas de limite au contrôle, mais le but n'est pas d'installer des moyens lourds. Le principe n'est pas de traquer tout le monde tout le temps sur la toile. Le principe, c'est de défendre la culture française. Chère culture française, il s'agit surtout de passer d'un monde où l'illégalité est la règle à un monde de l'égalité. Et pour appuyer un peu plus ses propos, le sénateur aura une fibre sociale. Quand un jeune perd son boulot à la FNAC parce qu'il ne vend plus de CD, on comprend bien l'importance de protéger la création. Toujours un article de Marc Ries de PC Impact. Quelques réactions là-dessus ? Toujours pareil.
Moi, je pense que dans les listes des premiers à être contrôlés, je pense qu'on va retrouver des gens morts, certainement. Et puis, peut-être Mickey aussi, ça s'est déjà vu dans certaines listes où on voyait Mickey apparaître ou des gens décédés, quoi. Donc, je ne serais pas surpris de les retrouver dans cette nouvelle liste.
Ça va être dur de comparaître devant un juge dans ce cas-là, non ? Et sur les logiciels de sécurisation, là-dessus, ça vous...
On attend toujours de savoir ce que doit proposer la commission Hadopi. Rappelons quand même que ces logiciels sont fournis pour Windows et il n'y a pas de version connue pour d'autres systèmes libres, notamment pour Linux.
Oui, c'est ce qu'il laissait entendre en disant que ce n'est pas forcément un logiciel libre qui sera mis à disposition, évidemment.
Comment est-ce qu'on fait quand on utilise un autre système que Windows pour l'installer ?
Voilà, moi je suis sous Linux à la maison, je fais comment pour installer votre logiciel de sécurisation ? Moi je veux bien sécuriser mon accès, mais je ne peux pas parce que le logiciel ne s'installe pas. Et puis je ne vais pas installer un Windows ou un Mac ou acheter une machine dédiée pour sécuriser mon accès. Non, il ne faut pas rigoler quand même.
Non, tout à fait. Alors après, tu parlais du fait que les fournisseurs d'accès devront proposer quelque chose pour sécuriser. Si c'est autre chose qu'un logiciel, à ce moment-là, on aura peut-être une solution pour sécuriser nos accès. Mais sinon, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour prouver que notre accès est sécurisé en utilisant autre chose que Windows ?
Ou ils sécuriseront directement dans les box, non ?
C'est ce que j'espère.
Pourquoi pas ? Allez, on va s'accorder une petite pause musicale, le temps de boire un petit peu, de manger une petite galette. Et puis on va écouter Captain Big Da Camarade, Je suis un geek, sous licence Creative Commons by NC Andy 2.5. Attention Ellie, ça part très vite.
Sur lesquels j'ai balancé mes forums en PHP. J'ai une connexion au débit, un serveur no IP. J'ouvre avec l'envie, juste aux initiés. Newsgroup et de Pétorel et consort. Partage ça, je connais, j'en ai usé. Avis OGM, MP3, MKV continuellement s'améliore. Les GIF, les JPEG, les PNG, même parfois les PSD. 32 bits en MP3, c'est bon, je connais déjà tout ça. Je suis un geek, geek attitude, je suis un geek, geek attitude. Je teste plein de jeux qui font chauffer ma CGI, je peux pas citer ça. chaleur sur un casse-brique hébergé sur le net. Je floute partout, toujours bon été. Je cherche, je poste, je troll parfois malgré tout. Sur le même pseudo pour la programme autorité. Et bien sûr, ce qu'il faut, comme pas gratard, signature personnalisée. J'ai Kiri, SCJ, Fâché, Hotmail, Google, bien sûr, et ton ami. Winamp, Winrar, oui, je suis sûr, mais c'est pas une merveille. Mais j'ai de ma s'offense,
je suis un geek, gwink, avez-vous la geek attitude avec Capitaine Big. C'était extrait de son album Da Camarade sous Creative Commons by NC Andy 2.5. Et vous retrouvez tout ça sur dogmazic.net, sur le site de l'émission également, avec un très beau player de Dogmazic pour cette playlist. Puis évidemment, juste au-dessus, vous avez tous les articles. Un petit coucou aussi à nos amis belges qui sont sur le chat. Meilleurs vœux à vous. Eux qui rigolent de cette loi depuis le temps que la France en parle. Ils nous regardent. Une belle partie de ping-pong, nous dit Robert en tout cas. Coucou à nos amis belges et francophones, aussi au Québec, je sais qu'on est écoutés là-bas. On poursuit ces nouvelles du front avec Microsoft qui recrute un responsable de la lutte contre les logiciels libres. Oui, oui, je répète, Microsoft recrute un responsable de la lutte contre les logiciels libres. La lutte de Microsoft contre les logiciels libres ne date pas d'hier. Hélas, à l'instar de beaucoup de sociétés, lorsque le système d'exploitation GNU Linux a commencé à faire parler de lui, la firme a rapidement manifesté son antipathie pour le mouvement. Le 30 décembre dernier, principalement inquiété par l'importance croissante de ce système, mais aussi de l'application OpenOffice, la société a donc publié une annonce de recrutement d'un responsable de la concurrence de Linux et d'OpenOffice. Donc, pour les particuliers, la concurrence que font les logiciels libres à Microsoft reste discrète, bien que le navigateur Firefox gagne sans cesse des parts de marché. Mais au sein des entreprises, cette concurrence est beaucoup plus importante. La société se sent depuis longtemps menacée sur ce terrain par des logiciels libres. Entre les années 2000 et 2005, c'est par exemple le serveur web Apache qui inquiétait Microsoft puisqu'il est au fil des ans devenu le serveur web le plus utilisé sur la toile. Et oui, il faut le savoir. Depuis, la tendance est loin de s'inverser, comme le prouvent les annonces faites ces dernières années par des institutions françaises comme la Gendarmerie nationale ou l'Assemblée nationale, mais oui, avec OpenOffice et son fameux pare-feu. Non, trêve de plaisanterie. Les stratégies employées par Microsoft pour lutter contre les logiciels libres ont été diverses. Il y a quelques années, l'entreprise SCO a intenté ainsi un procès contre les utilisateurs de GNU Linux, notamment IBM et Red Hat, avec le soutien de Microsoft. Ce procès, faisait partie d'une série de déclarations faites par des membres de la société, comparant par exemple Linux à un cancer. Oui, cancer. Cependant, la progression des logiciels libres ne s'est pas ralentie et la firme se sent davantage menacée aujourd'hui par certains d'entre eux, notamment par les distributions des sociétés Canonical et Red Hat Canonical qui commercialise, entre guillemets, ou qui produit Ubuntu. Un poste original, un responsable de la concurrence aux logiciels libres. À Apache et GNU Linux s'ajoutent d'autres logiciels libres concurrençant les équivalents vendus par Microsoft, notamment OpenOffice, un concurrent de la suite Office Microsoft. Dans son offre d'emploi, Microsoft cite pour la première fois la suite bureautique comme étant un concurrent sérieux et annonce ainsi être à la recherche d'un responsable dont le travail serait de contrer la croissance des parts de marché de ces logiciels. Ça sent le fort lobbying quand même. C'est donc un travail de marketing qui devra être fait. Microsoft attend un tel responsable qui oriente la stratégie de l'entreprise aux États-Unis. Le but est d'assurer la croissance en termes de parts de marché, donc des logiciels vendus, donc notamment d'inverser la tendance actuelle. Plus généralement, il devra également s'assurer de blanchir l'image de Microsoft auprès des journalistes, des consultants, etc., qui ont une perception négative de la société. Il jouera donc un rôle de pivot entre les différentes équipes travaillant pour la société. Microsoft semble donc chercher une nouvelle stratégie dans sa lutte contre la concurrence du logiciel libre. Celle-ci s'inscrit manifestement dans son projet de redorer son image et de récupérer des groupes importants d'utilisateurs. Alors vous pouvez regarder les annonces de migration vers Ubuntu faites par la Gendarmerie nationale et l'Assemblée nationale qui entraînent également l'adoption d'OpenOffice et évidemment OpenOffice.org, un très bon site pour récupérer librement et gratuitement, je le précise, gratuitement. Hein, si on vous dit faut payer pour télécharger, vous n'êtes pas sur le bon site. Hein, c'est OpenOffice.org, une suite évidemment bureautique concurrente de Microsoft Office, une source en Creative Commons by SA, prise sur le site du zéro.com. Un petit commentaire.
Tellement de choses à dire là. Le parfait d'OpenOffice, tout ça. Non, je trouve ça dommage qu'ils veulent combattre le libre alors qu'ils commencent à le reconnaître. Moi, je pense que plutôt de le combattre, il faudrait essayer d'améliorer ses propres produits pour être concurrent et garder les parts de marché qu'il a déjà. C'est la loi du marché, ça se passe comme ça et voilà. C'est dommage de vouloir combattre, de donner cette image là de chevalier contre le libre.
Pascal, peut-être.
Oui, mais comme tu dis, c'est une forme de reconnaissance. Et puis, faudrait peut-être suggérer à Microsoft d'ouvrir ses sources s'il veut être vraiment concurrent d'OpenOffice. Parce que OpenOffice ouvre ses sources. Non seulement il est gratuit, mais en plus, il ouvre ses sources. Donc, on sait exactement ce que fait le logiciel. C'est pour cette raison que la Gendarmerie nationale a adopté OpenOffice au détriment de Microsoft Office. Voilà la raison essentielle, quoi.
On peut retrouver ça dans la...
En plus, il est multiplateforme. Hein. On peut l'utiliser sous macOS, sous Windows et puis sous Linux et d'autres systèmes. Alors que Microsoft Office est quand même assez limité au niveau des plateformes.
Évidemment, quand le logiciel est fermé, c'est sûr que la sécurité nationale ne le choisit pas. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il contient, c'était le cas aussi de Firefox version armée, défense nationale, hein, où eux, ils l'ont aussi amélioré. On en avait parlé la fois dernière avec Millimail, hein, donc du mail pour les militaires. Voilà, donc ouvrez vos sources, vous aurez des chances d'aller dans les administrations, hein, ça c'est sûr. On va passer à une petite actualité logicielle, après ces annonces déjà législatives, un peu de combat. J'ai compris, 9.0 est enfin là. Après 2 ans de travaux, l'équipe de développement de J'ai compris est heureuse de partager avec vous la sortie de la version 9.0. Alors J'ai compris, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel éducatif qui propose des activités variées aux enfants de 2 à 10 ans. J'ai compris à peu près de 10 ans. À peu près donc 10 ans, et avait besoin de restructuration en profondeur. Cette version apporte de nombreuses modifications obligatoires pour le rendre plus facile, améliorer, maintenir et diffuser. Donc vous pouvez retrouver cette annonce sur j'ai compris.net. C'est très intéressant. Il y a un live CD qui existe, que vous gravez, que vous faites tourner sur votre ordinateur. Et vos enfants de 2 à 10 ans, et même vous-même, vous pouvez même jouer avec sans l'installer sur l'ordi, ou vous pouvez aussi l'installer comme vous voulez. À vous de voir. Une news qu'on retrouve aussi sur linuxfr.org. On va parler de Map OS-matic, qui est un petit cadeau pour le nouvel an. Des améliorations majeures donc de ce site. Hein. L'équipe de Map OS-matic est donc fière de vous annoncer qu'une nouvelle version du site Map OS-matic avec un C.org vient d'être mise en ligne, proposant donc des améliorations majeures par rapport à la version initiale lancée en septembre 2009. Alors, qu'est-ce que c'est Map OS-matic ? Pour rappel, donc, c'est un site web qui permet de générer des plans de ville à partir des données OpenStreetMap. Hein. Donc, c'est de la cartographie libre. Vous pouvez vous-même cartographier vos quartiers, vos rues, etc. La carte est divisée en carrés pour faciliter la recherche des rues et livrée avec un index des rues correspondant. Et maintenant, ils ont rajouté des fonctionnalités supplémentaires comme les lieux publics. Donc, si vous marquez les églises, les stades, etc., eh ben, ça apparaîtra dans l'index. Et c'est fait pour les municipalités, pour leur affichage public. Des commentaires, peut-être ? C'est bien, ça ?
C'est une bonne nouvelle, ouais, que les affichages publics se mettent au libre. C'est sympa.
Oui, ouais, bien sûr.
Ouais, c'est vrai que la cartographie coûte cher. Coûte cher.
Surtout,
à faire.
Ouais, pour les petits villages, les grandes villes n'ont pas de problème de budget. Les petits villages, un peu plus. C'est très, très bien.
En fait, ils se regroupent dans les communautés de communes, généralement. C'est elles qui chapotent un peu les publications. Disons, pas la publication. La numérisation de leur cadastre pour avoir des fonds de plan et faire des cartes après avec.
Le fait qu'il y ait des gens qui y participent, ça permettra d'aller plus vite et justement de dépenser moins de moyens. C'est une très bonne nouvelle, ouais.
Et il faut dire aussi que donc ils sont beaucoup plus à jour là. Le site MapOS-matic récupère donc tous les jours les dernières nouveautés donc du site OpenStreetMap. Donc c'est-à-dire que les cartes sont très très fraîches par rapport à des cartes que vous pouvez avoir avec des fraîcheurs datant d'un an. La plupart
Absolument.
Du temps, dans le meilleur des cas. Une petite pause musicale, oui, allez, une petite pause musicale avec Adam Castillo, 1944, sous licence Creative Commons, by NCSA 2.0.
sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir.
Par Adam Castillo, qui est un artiste polynésien de Papété. Pour ceux qui nous écouteraient à l'autre bout de la planète, un petit coucou. C'était donc sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Et les libristes parlent aux libristes. Avec Pascal Arnoux de Montpellier Libre et Cédric Chapuis, on va parler actualité du libre. Donc plus exactement celle qui va se passer le vendredi 8 janvier au Kawenga à partir de 14h. Pascal.
Oui, donc on va organiser des points libres, enfin comme chaque premier vendredi du mois.
Le sujet,
cette fois-ci, c'est SPIP, donc animé par Nicolas Villa et aussi Bernard.
SPIP qui est un composeur de
sites.
De sites.
Oui, voilà. Ça,
un CMS. Voilà,
c'est ça. Ça pour,
mais que veut dire CMS, voilà.
Pour banaliser un peu la chose, ça permet de faire des sites internet assez complets.
Donc ça c'est donc vendredi, donc de 14 à 19h.
À 19h, et donc il y aura une animation. Alors c'est un peu libre au départ, et après il y aura une animation avec des explications, certainement un diaporama, et avec monté sous Impress, je pense. Et avec des questions-réponses, quelques exemples.
Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est libre, c'est au 21 boulevard Louis Blanc à Kawenga, donc vendredi 8 janvier à 14h. Et c'est un rendez-vous mensuel. Tous les premiers vendredis de chaque mois.
Voilà, c'est ça.
Autre actu, puisque c'est très très chargé de ce côté-là pour vous, c'est l'Ubuntu parti samedi 9 janvier. À partir de 10h
à 18h, oui, à la médiathèque de l'agglomération Émile Zola. C'est un événement pour fêter la venue de la nouvelle version de Ubuntu. Et c'est quelque chose, en plus de Ubuntu, on a greffé dessus les logiciels libres, puisque c'est quelque chose que j'ai organisé en partenariat avec Montpellier Libre. Ça se passe donc samedi 9 janvier.
Parce que toi, Cédric, comment tu pourrais te décrire ou te présenter déjà vis-à-vis de nos auditeurs ?
Me présenter, moi je suis un informaticien qui cherche à faire connaître le monde du libre, parce que c'est quelque chose qui a un avenir à mon avis. Et donc quand j'ai vu que pour la sortie de la nouvelle version de Ubuntu, il y avait des événements partout en France, je me suis dit il faut faire quelque chose à Montpellier. Et c'est à partir de là que j'ai pris contact avec Montpellier Libre et qu'on a mis en place cet événement.
D'accord, parce que tu représentes en fait la communauté francophone des utilisateurs d'Ubuntu pour notre secteur, dirons-nous.
On peut dire ça comme ça. Disons que je les ai contactés, ceux qui m'ont dit de faire ça et de le faire avec les gens qui étaient sur place.
Donc ubuntu-fr.org.
.org, absolument.
Dont on connaît évidemment le cher président situé à Toulouse et qui s'appelle Christophe. Je ne me souviens plus son nom. Ami de Toulouse, coucou. Une install party donc pour ce nouveau système, la 9.10.
Karmic Koala.
Karmic
Koala,
donc le Koala Karmic.
Karmic, c'est ça. Et donc en fait, y a déjà eu des événements à Paris, 5000 personnes. Il y en a eu à Toulouse aussi où ils étaient, je ne connais pas le chiffre, mais c'était quelque chose de monstrueux avec des manifestations Binact, etc. Et nous, ce sera beaucoup plus léger. Ce sera une install party avec des petits ateliers et des conférences l'après-midi sur les événements libres, les choses libres qu'il y a sur Montpellier.
Donc ça commence à 10h.
À 10h, voilà.
À la médiathèque centrale Émile Zola. Donc c'est des ateliers, donc install party. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire je viens les mains dans les poches, je viens avec ma machine, je viens avec mes questions.
Install party, c'est j'ai envie d'installer Ubuntu sur ma machine, mais je ne sais pas faire. Donc on vient avec sa machine et il y aura quelqu'un pour vous aider à installer le système Ubuntu sur la machine. Donc il y a des petites précautions à prendre avant. Et pour ça, on pourra tout expliquer sur place. Mais voilà, le but, c'est ça. On a un ordinateur, on veut installer Ubuntu dessus, on ne sait pas faire. On vient et ensemble, on découvre et on le fait. Voilà. Lors d'un autre atelier, ce sera la présentation des logiciels libres par Pascal, qui défend déjà tout ça et qui fera des démonstrations de Firefox, Thunderbird et toute une suite de logiciels libres que nous distribuons.
OpenOffice peut-être aussi ?
Ah, OpenOffice, évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Un autre atelier, ce sera une jam party qui sera tenue par Nicolas Villa.
C'est quoi ça ?
C'est en fait la partie, l'envers du décor. C'est la partie où on développe pour Ubuntu. Donc là, ce sera, on va essayer de faire de la documentation, des traductions donc de la documentation en français. Et il peut y avoir aussi un atelier développement. Mais pour demain, je pense qu'on va se cantonner à la documentation parce qu'on n'a pas suffisamment de gens et de personnes compétentes pour faire autre chose. Voilà.
Et l'après-midi, d'autres festivités, j'allais dire ?
Oui, comme je disais, des conférences l'après-midi. La première conférence, ce sera pour parrain-linux, qui est un site internet qui permet de mettre en relation des gens, des parrains et des...
Et des filleuls.
Et des filleuls, merci. Oh là là, ça m'est sorti de la tête. Des filleuls afin de faire découvrir donc Linux à d'autres personnes.
Et ce sera donc Guillaume Killy qu'on recevait il y a quelques semaines qui nous présentera donc ce site parrain Linux.
C'est bien la même personne, oui.
C'est bien lui, mais oui. Donc ça veut dire que si vous êtes novice, vous avez peut-être quelqu'un proche de chez vous qui peut vous aider.
Absolument.
Et à l'inverse, si vous êtes expert ou plus aguerri, vous pouvez vous inscrire en tant que parrain. Voilà,
pour aider des gens à découvrir Linux.
Pour aider des gens, tout à fait. Et puis dans ce site, il y a aussi une partie compatibilité de matériel avec les systèmes libres. très intéressante pour savoir si mon imprimante elle marchera sous ce Linux là, oui ou non. Voilà, donc très très intéressant. Parrain-linux.com, je crois, me disait-il, ou point,
c'est point .fr.
Ou point .fr, bah, il a changé. Bon, parrain-linux au singulier.
Voilà.
Et vous retrouverez tout ça. D'autres conférences, peut-être
La deuxième conférence, ce sera sur les systèmes de recherche experts. C'est Pierre, dont j'ai oublié le nom de famille.
Pierre-André.
Pierre-André, oui.
Pierre-André, voilà, merci, qui viendra l'animer. C'est un système qui veut mettre en place pour recréer un Internet dans lequel on trouve facilement et précisément ce dont on a besoin. Et la dernière conférence qui n'aura pas lieu, c'était sur OpenOffice. Finalement, elle est annulée. Donc, on reprendra peut-être les ateliers en fonction de la demande en fin d'après-midi.
Donc, c'est-à-dire que pendant les conférences, il y a une pause des ateliers.
Voilà.
Je suppose que ça va se passer comme ça. Puis en dehors des conférences, donc, il y a les ateliers qui reprennent ou qui se poursuivent.
Hein. Absolument.
Et en alternance, peut-être, voilà, donc l'après-midi plus dédié sur des conférences qui durent à peu près...
Une heure. On table sur une heure avec les questions-réponses.
D'accord, à partir de 14h.
14h, voilà.
C'est ça. Et donc le matin à partir de 10h pour les ateliers. Jusqu'à quelle heure tout ça ?
Jusqu'à 18h.
Jusqu'à 18h. Donc message passé, hein, si vous voulez toucher du pingouin, bah, venez ce samedi 9 janvier à la médiathèque Émile Zola. Et ça se trouve où dans la médiathèque Émile Zola ? Parce que c'est grand, ça. C'est
donc en fait, il faut demander à l'accueil qui vous redirigera précisément. Mais c'est au premier étage, en fait, dans une salle qui nous est dédiée.
Sans fenêtre.
Sans fenêtre.
Avec deux portes.
Avec, oui.
C'est déjà ça. oui, ça, c'est votre actualité. Alors... Une première bon. Ubuntu Party ou une deuxième ou une troisième ou c'est la première peut-être
Ubuntu Party, c'est la première.
Ouais, voilà,
en
c'est
tout
la
cas,
première
voilà.
que Montpellier organise sur Montpellier. Par contre, je tiens à signaler que nous ne sommes pas seuls à faire cette manifestation. Nous avons plein de partenaires autour de nous, notamment Montpellier Wireless, bon, bien sûr Ubuntu.
-fr
et tout ça. Ouais.
Plein de partenaires qui vous aident, des éditeurs aussi, des éditions comme édition ENI, dont j'ai un magnifique livre sous la main, Ubuntu Linux, création, configuration et gestion d'un réseau local d'entreprise, BTS DUT informatique, écrit par Gilles Chamillard. Et donc c'est la seconde édition de ce livre, et c'est donc aux éditions ENI, donc des éditions qui font aussi qui ont une thématique libre ou de logiciels libres.
Tout à fait.
Donc là, lors de cette manifestation là pour l'Ubuntu Party, cette édition là, cet éditeur nous propose son catalogue, donc qui est assez riche justement d'ouvrages sur les livres. Ouais, voilà, il y a tout ça. Bon, il y en a un peu d'autres.
Ubuntu,
Wi-Fi, on explique
voilà.
Wi-Fi, Unix, Linux, Debian. Et cet événement, il sera effectué un tirage au sort. Donc, ce livre dont vous a parlé Pascal Rullier. Il y aura cinq livres à gagner, les mêmes livres, voilà. Alors, ce livre, je le mettrai à disposition du public pour voir un petit peu son contenu. Et voilà, il y a donc cinq livres à gagner. C'est quand même un bel ouvrage.
Très intéressant. Donc, ouais. Venez nombreux ce samedi, donc ce samedi 9 janvier, à partir de 10h, médiathèque Émile Zola. D'autres. Alors, j'allais dire Ubuntu, oui. Vous avez vu d'autres systèmes libres aussi en vue, peut-être après
Alors, on est en contact plus ou moins avec Mandriva. Donc, c'est Olivier Rossolo. On lui a tendu un peu la perche et donc on attend des retours. Bon, il n'est pas contre. Il faut organiser ça.
Olivier, si tu nous écoutes.
Il faut organiser ça et ce serait normal aussi d'organiser une Mandriva partie. Bon, on choisira un lieu, mais on trouvera bien, hein, il n'y a pas de souci.
Mandriva, Fedora.
Fedora. Bah,
moi,
on attend Guillaume.
Debian.
Ah, Debian, évidemment, oui. Debian, Gentoo aussi, si vous voulez. Enfin, on peut n'importe quoi.
Moi, écoutes, hein, Gentoo, hein, la perche est aussi tendue. Hein.
Je pense organiser d'autres install parties à l'avenir avec Montpellier Libre, parce que celle-ci, c'est le premier. C'est la première pierre pour essayer de développer cette activité et permettre aux gens justement de s'appuyer sur Montpellier Libre pour pouvoir continuer à avancer dans le monde du libre.
Et ses partenaires.
Et ses partenaires, bien évidemment.
Sans oublier Slackware, peut-être, OpenSUSE.
Soyons fous.
FreeBSD, que sais-je, OpenSolaris.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Mais après, laquelle choisir ?
Celle qui nous convient. Ah. Celle qui nous convient. Il n'y a pas de loi absolue. C'est vous qui l'utilisez et c'est vous qui choisissez. Voilà.
Alors, la chose intéressante, c'est que la plupart de ces distributions sont maintenant des live CD.
Absolument. Donc, vous pouvez les tester sans les installer et ensuite, vous pouvez choisir.
Donc, on démarre sa machine sur le CD, ça se lance, c'est le système d'exploitation qui ne s'installe pas, qui est directement lu depuis le CD, si vous avez peur de brancher votre disque dur, mais bon, et vous verrez, vous pouvez utiliser les outils de cette distribution. Alors il faut savoir que bon, quand même, sur un lecteur CD, on a des temps de latence un petit peu plus grands quand même, donc
effectivement,
il y a ce temps qui... Quand vous chargez une première fois, vous le sentez, et puis après, ça va beaucoup mieux. Robert aussi de Belgique qui nous dit GNUSense, évidemment la fameuse distribution utilisée par notre cher RMS, bien nommé, puisque évidemment elle est 100% libre. Parce que certains disent oui, Ubuntu, c'est pas 100% libre parce que dedans ça intègre des petites briques logicielles qui sont pas 100% libres. Et donc, pour les puristes.
Voilà, les puristes. Moi j'en suis très content malgré que ce soit pas 100% libre. Maintenant, j'ai utilisé une Kentoo il n'y a pas longtemps et je suis prêt à changer n'importe quand aussi.
Après, du moment que tout le matériel soit bien reconnu, que évidemment on puisse faire fonctionner son imprimante, son scanner, son appareil photo numérique, mais dans la plupart des cas, ça marche.
Ça marche, effectivement, ça marche. Même avec les matériels récents, comme les EPC, les petites machines comme ça, là, tous les périphériques sont reconnus dessus sans problème.
D'accord. Donc, à suivre évidemment la Ubuntu Party, la logiciel libre Party, ou plutôt le système d'exploitation libre Party. Venez, soyez curieux, n'hésitez pas. On est là, ils sont là pour vous, à vous retrouver évidemment. Donc, ce samedi, je le répète, et je le répéterai pas assez parce que c'est des événements qui se passent sur Montpellier et c'est à ne pas manquer puisqu'on peut toucher et discuter avec les gens. Et ça, c'est déjà très, très bien. Une petite pause musicale rapide. Alors, un petit morceau court. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va bien se mettre dans les oreilles? Ah, un petit bout de Roger. Roger, il s'appelle comme ça. Marche. Sous licence Creative Commons by NC Andy 2.0. Et vous êtes toujours sur Divergence Numérique 93.9. vous n'êtes pas sur Mélomaniac, mais bien sur Divergence Numérique. Et oui, en musique libre, on trouve aussi de la musique classique. De l'Install Party, il y en a aussi à Saint-Brieuc, dans la Bretagne, avec Brestus, qui organise aussi une Install Party là-bas, en Bretagne. Agendadulibre.org. Vous retrouverez évidemment dans votre secteur tout ce qui concerne le libre et les rendez-vous là-dessus, de l'Open Office à Orléans, etc., etc. À Paris, à Lille, à Toulouse, à Rennes, à Plumeur, enfin bref, agendadulibre.org. Et c'est ainsi que s'achève cette 58e émission de Divergence Numérique. Un petit mot, Pascal.
Oui, j'ai une annonce à passer là, concernant Béziers, parce qu'on a l'intention d'organiser un last jeudi là-bas à Béziers, puisqu'on l'a déjà fait. On essaye de sortir un peu de Montpellier. Donc on l'a déjà fait avec la Linuxerie à Nîmes. Et là, on cherche des contacts sur Béziers, et notamment avec Bernard Stiegler. Donc s'il nous entend, s'il peut rentrer en contact avec Montpellibre, il va trouver les coordonnées sur le web. Donc voilà, notre idée, c'est d'organiser un dernier jeudi, quelque chose comme ça.
Sur l'axe méditerranéen, Béziers, voilà, Montpellier, Béziers. Nîmes, et bientôt peut-être Perpignan aussi, hein, qui sait.
Soyons fous.
Soyons fous, soyons libres. Je vous remercie. Merci, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Allez sur le site divergence-fm.org. Et non, qu'il soit libre, votre système. They will not hesitate to use them. Terrorist networks. Terrorist states.